Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, il sera question d'une hospitalière de Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu. C'est le 50e anniversaire de son décès cette année, et elle portait le nom de Marie de l'Eucharistie, et elle nous rappelle beaucoup Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, elle avait la même spiritualité, la même façon de vivre. Elle était cloîtrée, elle aussi, dans un sens. Les hospitalières, à l'époque, étaient cloîtrées, tout en étant hospitalières, comme les Ursulines étaient cloîtrées, tout en étant enseignantes. Son nom, c'était Marie-Thérèse Rivet. Elle a pris le nom de Sœur Marie de l'Eucharistie. Elle est morte très jeune aussi, pas aussi jeune que Thérèse l'Enfant Jésus, mais elle a laissé un souvenir impérissable chez ceux qui l'ont connue, mais malheureusement elle est peu connue par notre population, comme d'ailleurs malheureusement tant de religieuses extraordinaires qui ont vécu parmi nous, qui sont passées dans l'oubli. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de rendre hommage à cette Québécoise, Marie-Thérèse Rivet, dite Sœur Marie de l'Eucharistie, décédée au mois d'août, le 27 août 1948, il y aura donc 50 ans dans quelques mois. Elle n'avait que 35 ans, 35 ans et 4 mois. Et ce qui marque sa vie, on peut dire que c'est l'humilité, une humilité intelligente. Et ça a précédé sa gloire. Elle est née le 2 avril 1912, c'est pourquoi je la célèbre aujourd'hui. C'est l'anniversaire de sa naissance, elle aurait aujourd'hui 86 ans. L'humilité précède la gloire. C'est une parole de la Bible, du livre des Proverbes, au chapitre 15. Verset 33, et cette parole biblique, on l'a appliquée très souvent, avec beaucoup de raisons, à Sainte Thérèse de Lisieux. Et il me semble que cette parole revient naturellement à l'esprit quand on lit le peu de choses que j'ai pu obtenir au sujet de cette sainte, je dirais bien, oui, cette sainte qui n'est pas canonisée, cette sainte qui a vécu, en fait, au coin de l'avenue des Pins et de l'avenue du Parc. Bien oui, tout simplement, chez nous, ici, en plein cœur de Montréal. Ça revient tout naturellement à l'esprit quand on pense à elle, quand on évoque la mémoire de cette petite sœur, oui, Marie de l'Eucharistie, Marie-Thérèse Rivet, qui était enveloppée de l'amour de Dieu et qui répondait à cet amour avec une évidence qui frappait les médecins, les infirmières, les jeunes gardes malades, et évidemment ses consœurs, ses sœurs. Esquisser la physionomie morale de cette jeune femme privilégiée, c'est peut-être trop peu. Retracer la carrière bien courte d'une âme qui a rayonné, d'une âme qui a été vraiment fidèle, on parle plus de ça, la fidélité presque aujourd'hui, hein? On parle plus de ça d'ailleurs, des gens qui rayonnent de la grâce. Comme c'était important à cette époque, mon Dieu, on parlait de ça partout. Quand quelqu'un rayonnait de sainteté, il y en avait. Vous en parlerez demain d'un jeune garçon de 17 ans, le frère Denis, des Frères du Sacré-Cœur, un autre Québécois. Mais ça a valu à Sœur Marie de l'Eucharistie une surabondance de lumière dans la pratique de tout ce qu'elle avait à faire en tant que religieuse à la fois cloîtrée et active. Mais c'est trop peu encore. Il faudrait un volume, un bonjour. Il faudrait écrire, je ne pense pas que ça ait été fait, et qui pourrait s'intituler, pour imiter Thérèse de l'Enfant Jésus, l'histoire de son âme. Parce que elle a eu le privilège, cette Québécoise, de cheminer depuis sa toute petite enfance jusqu'aux dernières heures de sa vie, dans le sillage absolument lumineux et transformateur, pourrait-on dire, de sa patronne Thérèse de Lisieux, puisqu'elle s'appelait Marie-Thérèse Rivet. C'est sûr, toute proportion gardée, que le rapprochement s'impose. Elle ne serait pas docteur de l'Église comme Thérèse de Lisieux, mais elle avait la qualité de l'âme et cette luminosité. Déjà au lendemain de sa mort, la lettre qu'on appelle la lettre des offices de septembre a laissé pressentir cela aux religieuses hospitalières de Saint-Joseph qui sont établies là, à l'Hôtel-Dieu, depuis le tout début de Montréal. Elles ont été fondées par un laïc, Jérôme Leroyer de la Dauversière, un homme marié. Je vous en ai déjà parlé. Une grande congrégation d'hospitalières cloîtrées, fondée par un laïc marié, oui. Et d'ailleurs, l'Hôtel-Dieu a été fondé par une laïque, Jeanne Mance. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Or, donc, dans la lettre des offices de septembre 1948, après le mois suivant la mort de Sœur Marie de l'Eucharistie, c'est dit « Notre Sœur Marie de l'Eucharistie portait le nom de Thérèse. Toute sa vie devait être la reproduction de la petite voix de confiance et d'amour de la fleur du Carmel. L'une et l'autre sur terre, émules en obéissance, charité, humilité, renoncement, zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, ne sont-elles pas unies désormais dans la béatitude pour faire descendre sur notre communauté une pluie de roses? Nous le croyons, hein? Le terme « une pluie de roses » fait peut-être un peu sourire certaines personnes, mais c'est le terme qu'a utilisé Thérèse de Lisieux elle-même, qui avait du caractère, hein, mais qui était imbu un peu de l'esprit un peu trop fleuri, dit-on, de la fin du siècle dernier. Mais quoi, on est de son temps, et c'est tout. Et alors, elle avait utilisé l'expression qu'elle ferait descendre une pluie de roses quand elle serait rendue au ciel. C'est une façon de parler qu'elle s'occuperait des autres, des gens, qu'elle viendrait à leur secours. C'est ça que ça veut dire. C'est poétique. C'est un peu surréaliste, mais... Après 50 ans, je pense bien que les sœurs hospitalières de Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu de Montréal, après 50 ans, elles peuvent constater, par tous les témoignages qu'elles ont eus, surtout dans les années qui ont suivi la mort de Marie-Thérèse Rivet, sœur Marie de l'Eucharistie, tous ces témoignages qui n'ont pas cessé d'affluer pendant un bon bout de temps, que si cette petite hospitalière n'a pas l'honneur d'une reconnaissance officielle de l'Église, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse de Lisieux, elle n'en fut pas moins, dit un témoignage ici-bas, sa sœur de grâce. Parce que Dieu s'est visiblement plu à les traiter l'une et l'autre comme des prédestinés, dirait-on. On dirait qu'il est plus vivant en elle qu'en nous. Mais au fond, personnellement, je crois qu'il est aussi vivant en nous qu'en elle. C'est nous qui sommes lâches et qui ne répondons pas. C'est nous qui ne savons pas comment vraiment dire oui tout le temps. Nous sommes trop paresseux, trop pris par nos petites colères et nos rancunes. On a pu affirmer de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a cela de particulier qu'après sa mort, elle n'a, pour ainsi dire, pas disparu, continuant à vivre au milieu de nous. Dans l'au-delà, elle se montre accessible, comme elle l'était au jour de sa vie mortelle, et jadis, elle accueillait toute requête avec un sourire. Aujourd'hui, elle répond aux prières par des parfums de roses. Mais le caractère très particulier de son action bienfaisante, c'est une intimité de tous les instants qui s'établit entre Thérèse et ses amis. Oui. Une intimité de tous les instants qui s'établit entre Thérèse et ses amis. Elle vit avec eux. Elle intervient en leur faveur. Elle les guide dans leurs difficultés. Elle les console dans leurs épreuves. Il y a entre elle et ses âmes un échange affectueux et perpétuel, ou mieux, un cœur à cœur d'une inconcevable tendresse. Oui, j'en suis le témoin avec un de mes meilleurs amis qui vit ça. Ce texte sur Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, vous le retrouvez dans l'Histoire d'une âme, dans la grande édition, page 516. Voilà un témoignage que, mot pour mot, on peut appliquer à cette religieuse décédée en 1948 à l'Hôtel-Dieu. Que ses propres compagnes lui aient voué d'ailleurs une sorte de culte, soit, mais que la supérieure, Mère Rivard, à sa première conférence spirituelle, 2 mois après la mort de Sœur Marie de l'Eucharistie, l'ait proposée comme modèle, voilà quelque chose. Et que des religieuses de 50, 60, 70 ans, et qui étaient beaucoup plus âgées, lui confient leurs intentions, leurs difficultés, ça prouve assez qu'elle n'a pas disparu si rapidement. Et elle répond vraiment, paraît-il, aux demandes de secours qu'on lui adresse par une aide sentie. Hein. Elle répond même, comme dit une religieuse, comme Sainte Thérèse de Lisieux, par des parfums de roses. On en peut citer déjà plusieurs exemples. Vous direz que c'est pas, puisque c'est ça, ces parfums de roses. Eh bien, je peux le dire en toute simplicité. Je passerai peut-être pour un pauvre attardé mental. Ça ne me gêne pas de le dire en ondes. J'ai déjà senti ces parfums de rose à l'occasion venant d'une icône, particulièrement de Notre-Dame de la Porte. Je l'ai senti plusieurs fois. Que voulez-vous, j'ai été témoin, à moins que ce soit mon imagination purement et simplement, mais je suis sûr que ça ne l'est pas. En tout cas, surtout, il y a entre Sœur Marie de l'Eucharistie et bien des religieuses de sa communauté un échange affectué perpétuel, hein, qui a fait recourir les religieuses spontanément à son pouvoir d'intercession là-haut. Pour revenir à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait une passion. Une passion très étrange, c'est de la passion pour l'oubli. Au point que quand elle est morte, on s'est imaginé qu'on n'aurait rien à dire sur elle. L'oubli. Or, l'humilité, la modestie, l'effacement, c'était la même chose, ce sont les vertus caractéristiques de Sœur Marie de l'Eucharistie. Et cependant, chose étrange, elle ferme les yeux pour toujours, puis de partout, en 1948, s'est élevé comme un concert de regrets et d'éloges à sa mémoire. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est l'un des aumôniers de la communauté, qui a écrit juste après sa mort, aux sœurs, en leur disant, vous avez vécu dans le rayonnement d'une âme prédestinée. Lui, il l'avait connue très bien. Il l'avait suivie des années durant. Une âme prédestinée. Et, dans la sympathie générale que tant de messages ont exprimé, il y a une lettre d'un nudiste, un père nudiste, hospitalisé quelque temps avant la mort de Sœur Marie de l'Eucharistie ou Sœur Marie-Thérèse Rivet, qui portait le nom, comme vous savez, donc de Marie de l'Eucharistie. Alors, que le décès de Sœur Marie de l'Eucharistie soit un deuil douloureux, dit cet eudiste. Et une perte pour l'Hôtel-Dieu, il dit, je n'en doute pas. Dès la première rencontre, j'ai été édifié par son esprit de charité et de douceur. Elle a laissé un profond et salutaire impression chez moi. Il ajoute quelle délicatesse et quelle bonté se dégageaient non seulement de ses paroles, mais de son attitude et de ses gestes. Compatissante pour les misères du prochain, elle savait, par un bon mot et un sourire d'où rayonnait la beauté de son âme, encourager et relever le moral déprimé par les ennuis de l'inaction et les inquiétudes des malades. une sœur qui a soigné mon père comme ça 10 ans plus tard, après la mort de Thérèse, de Marie-Thérèse Rivet. Il a converti mon père. Elle a converti mon père. Une sœur extraordinaire. Et donc le luthiste continue en disant, lui soulignant un jour la monotonie de son emploi qui ne lui procurait pas la satisfaction d'être au chevet des malades, elle travaillait dans un laboratoire, auquel elle aurait tant aimé prodiguer des soins continus, elle me répondit tout simplement qu'il n'en était rien car elle faisait tout autant plaisir au bon Dieu en travaillant au laboratoire qu'en soignant les malades sur les étages. Bel esprit d'abnégation, chrétienne et religieuse. Et l'udiste ajoute, nous ne pouvons douter qu'animée de telles dispositions, elle n'ait été tout près du cœur de Jésus. Ne soyons pas surpris qu'il soit venu l'acquérir un peu tôt pour le ciel. Et j'ai célébré le Saint Sacrifice pour le repos de son âme. Et depuis, je me suis souvent demandé s'il ne serait pas plus à propos de la prier que de prier pour elle. Car il est vrai qu'au jour du jugement, nous serons jugés sur l'amour. Nous serons jugés sur l'amour. Je ne doute pas qu'elle ne soit avec Dieu, car elle a beaucoup aimé. Je vous offre mes condoléances pour la perte d'une sœur, que je considère comme une hospitalière idéale, et au contact de laquelle on devenait nécessairement meilleur. Puisse l'exemple de sa vie et le souvenir de ses vertus demeurer longtemps vivaces chez celle qui reste ici-bas pour continuer l'œuvre, afin de les stimuler à travailler avant tout pour le bon plaisir de Dieu et à pratiquer cette incomparable vertu qu'est la charité. C'est une belle lettre de cet udiste. Et comme je vous dis, ça rappelle la conversion de mon père. Mon père n'aimait pas les sœurs, n'aimait pas les prêtres, etc. Il était bien mal pris avec ses enfants, ses 4 fils qui étaient religieux et sa femme très catholique. Religieux dans le temps, tempérament religieux. Et alors, mon père était alité, et je dis à la sœur, faites-y attention, ne lui parlez pas trop de religion, ça pourrait l'ennuyer, allez-y doucement. Alors, elle lui dit, ah, monsieur Beaugrand Champagne, ça arrive, les jetons changent, vous avez un crucifix, là, au pied de votre lit, en haut, aimeriez-vous que je le décroche, ça peut fatiguer des gens, ça, aujourd'hui. Et puis, il a dit non, non, et en disant non, non, il se trouvait à accepter Jésus. Il a demandé un prêtre. J'ai confessé, de communier tous les jours, ce qu'il faisait jamais, communier tous les jours jusqu'à sa mort pendant 2-3 mois. Et c'est cette sœur qui a eu le sens commun de lui sourire et d'être bonne pour lui. Et elle a eu de l'humour et de la gentillesse. La vie de sœur Marie-Thérèse Rivet, je vais l'appeler comme ça, n'a été qu'adhésion au bon plaisir de Dieu. Sa charité, son zèle à promouvoir le règne du Sacré-Cœur était remarquable d'ailleurs. Et ses nombreux écrits, parce qu'elle a laissé des écrits, des notes de retraite, des pensées, des réflexions, des consécrations personnelles aussi, puis plusieurs lettres à sa famille, des billets intimes à des compagnes, des religieuses ou des gars malades, ça reconstitue, on peut dire, sa doctrine d'amour, sa petite voix à elle dans le genre de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Et voici un résumé rapide de cette courte carrière, de cette Thérèse québécoise, on peut l'appeler comme ça, humble et sereine, toujours aimable, et qui est montée sans jamais se lasser jusqu'au sommet. Mais elle est passée par le calvaire aussi. Cette petite sœur, Marie-Thérèse Rivet, ou Marie de l'Eucharistie, c'est la 12e d'une famille de 14 enfants. Elle était née à Saint-Sulpice, vous connaissez ça, tout près de Montréal, sur les bords du Saint-Laurent, donc le 2 avril, comme je vous ai dit au début, 1913, elle entre au noviciat le 21 mai 1935 à 22 ans, et elle prononce ses premiers vœux. Sont des vœux pour ainsi dire monastiques, parce que c'est la vie monastique active, les sœurs hospitalières de Saint-Joseph, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je répète parfois des choses parce qu'il y a des gens qui s'intonisent après le milieu de l'émission ou des choses comme ça. En 1941, elle est ce qu'on appelle veilleuse au département Saint-Georges, à l'Hôtel-Dieu de Montréal. En 1942, elle est instructrice des gardes malades jusqu'au printemps 1944, où la tuberculose que l'on redoute finit par l'immobiliser à l'infirmerie. On la retrouve l'année suivante, en 1945, au laboratoire. C'est une habile technicienne. Elle donne encore la pleine mesure de son dévouement, mais le 10 avril 1948, il y a une attaque subite qui l'arrête en plein travail et elle ne peut plus se porter sur sa jambe gauche. C'est chose étrange, elle est dans un hôpital. Le diagnostic va rester, pour tous les spécialistes consultés, une véritable énigme. Curieux, hein? Alors, les mois passeront. Le 23 août seulement, toujours l'année de sa mort, donc 4 jours avant sa mort, les examens de l'Institut neurologique où sœur Marie l'Eucharistie, Marie-Thérèse Rivet, a été transportée, confirmeront le verdict, méningite tuberculeuse, et 4 jours plus tard, tout sera fini. Déjà. Terrible. Elle avait 35 ans. Il est difficile d'imaginer une résignation plus haute, dans une simplicité plus courageuse et plus constante. Cette sœur était marquée par un abandon plus complet, un amour plus confiant que quiconque devant la mort. Elle avait d'ailleurs une tante aussi religieuse dans la même communauté des sœurs hospitalières de Saint-Joseph que la sœur de son père, sœur Rivet, qui dira qu'à peine sa nièce avait-elle franchi le seuil de la vie religieuse qu'un désir immense de perfection s'est emparé d'elle. Et elle déclare dans ses premiers 8 jours au noviciat, c'est ce que raconte sa tante, sa maîtresse de novice là, lui permet de venir me voir à notre office. C'est comme ça qu'on appelle l'office, c'est là où la sœur travaille. Au bout de 5 minutes de conversation, où nous évoquons des souvenirs de famille qui lui sont évidemment agréables, elle se lève et part en disant « Ce doit être plus parfait que je retourne maintenant au noviciat. » Et dans ces monastères, il y a une belle tradition, et c'est celle d'inscrire à la porte des cellules quelques mots à caractère évidemment spirituel. Elle avait choisi « toujours plus, toujours mieux », ces deux termes deviendront une sorte d'idéal pour cette jeune professe des sœurs hospitalières de Saint-Joseph. Aujourd'hui, il est question, je dis bien, d'une sainte québécoise inconnue, sœur Marie de l'Eucharistie, de son nom Marie-Thérèse Rivet, originaire de Saint-Sulpice, qui était hospitalière à l'Hôtel-Dieu de Montréal et qui est morte à 35 ans en 1948. Et elle avait au-dessus de sa cellule, l'entrée de sa cellule, comme je vous ai dit, c'est 4 mots, toujours plus, toujours mieux. On devrait mettre ça à la porte des chambres de nos enfants. Toujours plus, toujours mieux. Et ces deux termes, comme je vous ai dit, vont devenir une sorte d'idéal pour elle. Elle va monter sans répit. Et pour cela, elle n'aura presque rien modifié, d'ailleurs, aux habitudes qu'elle avait prises déjà à la maison, auprès de son père, M. Rivet. C'est curieux, hein? Elle était orpheline à 5 ans, comme la petite Thérèse Martin, Thérèse de Lisieux. Ben oui, Thérèse Rivet va trouver dans la tendresse de son père, comme Thérèse Martin dans son père aussi, le vénérable Louis Martin. Ben elle va trouver dans la tendresse de son père, Monsieur Rivet, puis la grande sollicitude de sa sœur, Marianne, sa grande sœur, qu'elle aimait beaucoup. Elle va trouver une profonde compensation à l'absence de sa mère. Et en retour, Marie-Thérèse Rivet, même religieuse sous le nom de Marie de l'Eucharistie, aimera sa famille, toute sa famille. Jusqu'à la fin, sœur Marie de l'Eucharistie va s'intéresser à chacun, à ses frères, à ses sœurs, elle en avait plusieurs, aux neveux, aux nièces, qu'elle compte déjà par douzaines, plusieurs douzaines, c'est mieux qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on dit, Monsieur Untel laisse 10 enfants et 3 petits-enfants. Je suis toujours chagriné quand je lis ça dans le journal, je trouve ça épouvantable. Mais surtout, ce qui frappe, c'est son amour à Sœur Marie de l'Eucharistie. Et sa vénération aussi pour son père, qui est cloué au lit depuis 8 ans à un moment donné. C'est une épreuve. Oui, une épreuve douloureuse qui sanctifie quand on aime. qui sanctifie chaque jour ce bon vieillard. Ça creuse au cœur de cette petite hospitalière comme une sorte d'abîme de souffrance, mais elle aime, elle est pleine de l'amour qui sanctifie. Et combien, oui combien, elle va souffrir, de voir tant souffrir son pauvre père et toutes les lettres qu'elle ne manque jamais d'adresser à son père, au jour de l'an, à son anniversaire de naissance, faudrait peut-être toutes les citer. N'a pas le temps. Il y a de très beaux passages. Mais passons. Passons. Et si attachante que soit la correspondance de Sœur Marie de l'Eucharistie, c'est par sa vie même, plus encore que par ses paroles, qu'elle s'impose à nous aujourd'hui, qu'elle nous entraîne à sa suite, oui, sa vie quotidienne est une source intarissable de vie surnaturelle. Est-ce que nos vies quotidiennes sont des sources intarissables de vie surnaturelle? Des examens de conscience à faire tous les soirs. Hein? Sa vie donne à sa physionomie d'hier, physiquement là, un charme véritable. Ah, je me souviens de cette sœur de la congrégation qui est morte, 63 ans, qui avait ça sur la figure. Et d'ailleurs, tout le monde subisse, même à leur son issue, l'influence profonde de cette sœur. Il n'y a d'ailleurs qu'à regarder l'image mortuaire de sœur Marie de l'Eucharistie pour comprendre quelle sympathie rayonnante elle pouvait inspirer. Elle a voulu adopter un type de sainteté vécu par sainte Thérèse de Lisieux. Elle a voulu que toute son existence soit, comme elle dit, un pur holocauste d'amour à un Dieu qui n'est qu'amour. Le mot holocauste est peut-être surprenant, mais ça veut dire offrande, une pure offrande totale d'amour à un Dieu qui n'est qu'amour. Elle a voulu se vouer à Jésus par Marie, laissant Marie, sa mère, le soin de façonner Jésus en elle, comme Jésus s'est façonné en elle à partir de l'Annonciation, comme je l'ai décrit le 25 mars. J'espère que vous avez écouté cette émission qui a plu à beaucoup, beaucoup de monde. Comment Jésus s'est façonné en Marie. Émission du 25 mars dernier. Elle a voulu se consacrer au Sacré-Cœur. Elle a voulu se faire dans une formule admirable composée par elle-même et pour elle seule. C'est ce qu'elle écrit, le petit soldat du Christ, pour communier à son cœur et hâter l'heure de son universelle royauté. On parlait dans des termes comme ça, parce qu'on attachait beaucoup d'importance à la royauté de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il en a un royaume, hein, il est à l'intérieur de nous, le royaume de Jésus. Elle a voulu, enfin, cette sœur, en la Pentecôte 48, quelque temps avant sa mort, se consacrer à l'Esprit-Saint. Elle se prépare durant 7 mois, imaginez, où tour à tour, chacun des 7 dons, c'est pas bête, sera l'objet d'instantes prières et des suppliques. Elle médite chaque don pendant 1 mois pour se préparer. À l'oralité depuis plus de 2 mois, sans amélioration aucune, elle garde son expression habituelle de douceur et de sérénité. Pas facile, ça. Et elle s'engage alors, dit-on, à répondre avec le plus d'amour possible à la volonté de Dieu que lui apporte chaque moment présent. Oui, j'ai déjà fait une émission là-dessus. Hein. Dieu, il n'est pas dans le moment d'il y a 2 minutes. Dieu n'est pas dans le moment dans 2 minutes. Dieu est dans le moment présent. Il est là, qui nous attend et qui nous aime, qui nous sert contre lui. Faut pas le repousser. Y a-t-il quelque chose de plus désagréable quand on aime quelqu'un et qu'on le serre dans ses bras et qu'il nous repousse? Quelle horreur. Épouvantable. Ne faisons pas ça à Dieu, de grâce. Et ce programme d'amour intense, énergiquement souligné par une petite feuille retrouvée après son décès, bien sûr, Marie de l'Eucharistie l'a intégralement vécu jusqu'à sa mort. Elle a accepté dans l'amour tout ce qui lui arrivait. Et comblée de grâce, de lumière et de force, elle va pouvoir dire, au milieu des plus vives souffrances, écoutez bien, « Ah, Quand on songe qu'on possède en soi la sagesse divine, puis elle répète « la sagesse divine », elle insiste. « On ne peut pas, dit-elle, dire non au bon Dieu, on ne peut pas dire non au bon Dieu si on savait la sagesse divine. » Comme je vous dis souvent, si on savait la bonté, l'amour, la tendresse de Dieu pour nous, on ne pourrait plus dire non à Dieu. C'est ça la sainteté. C'est pas d'avoir peur de Dieu. C'est pas de craindre Dieu parce qu'il va nous punir. C'est pas de craindre Dieu parce qu'il va nous envoyer du verglas. Ni ça n'a rien à voir. C'est avoir peur de le repousser. De blesser sa tendresse, son amour. Quand on songe qu'on possède en soi la sagesse divine, dit-elle, on ne peut pas dire non au bon Dieu. Elle n'avait jamais dit non au bon Dieu. Elle était fidèle à la directive de son oncle Oblat. Elle avait un oncle Oblat, le père Médéric Magnan, qu'elle vénérait comme un père. Son oncle lui avait écrit à l'occasion de sa profession perpétuelle un très beau texte. Je vous le lis. Tu devras désormais être crucifié avec Jésus. Prenons-le dans le beau sens. Crucifié d'amour. Le Christ en croix est là par amour. C'est l'amour qui se révèle dans sa totalité. Tu devras désormais être crucifié avec Jésus, mais attaché à sa croix. Tu souriras quand même à tout et à tous que c'est beau. Et que de bien tu feras, lui dit-il. À ta mort, enseveli que tu auras été dans le cloître, tu croiras peut-être que tout sera fini, mais non, ton influence se prolongera longtemps, quand tu seras disparu, comme le soleil qui se couche le soir, la journée finie, laisse derrière lui une longue traînée de lumière. Et son oncle continue, ainsi, la vie du juste qui disparaît. Il brille encore, il éclaire, il réchauffe, par les bons exemples des vertus qu'il a pratiquées. Il ne disparaît pas complètement. Alors sois généreuse dans le sacrifice et espère en celui qui t'a appelé à devenir son épouse de prédilection. Puis le père Médéric Magnan, Oblat de Marie-Immaculée, son oncle, qui lui a écrit ça, et devant des faits accomplis, cette lettre qui date de 1940, on dirait revêt une allure de prophétie, hein? Crucifié avec Jésus, sœur Marie de l'Eucharistie s'était renoncée constamment. Elle avait travaillé chaque jour à devenir une hostie agréable à Dieu. Une hostie d'amour pour la joie, comme elle dit, de votre cœur. Cœur avec une majuscule. C'est ce que nous faisons à la fin de ce qu'on appelle le canon de la messe. On appelait ça le canon de la messe. Juste avant le Notre Père. Hein? Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père. Dans l'unité du Saint-Esprit, on s'offre. Nous sommes des hosties qui s'offrent à Dieu. Nous sommes des offrandes d'action de grâce, d'amour. Elle écrit tellement de belles choses. Elle avait écrit ça en sa consécration, mais elle souligne d'un trait vigoureux, selon son habitude, l'hostie d'amour qu'elle veut être. Et parce qu'elle ne peut dire non à Jésus, elle aime par-dessus tout, qu'elle aime par-dessus tout, hein. Elle renouvelle son offrande. Elle dit, j'espérais beaucoup guérir, mais c'est comme le bon Dieu voudra. Moi, j'ai tant confiance en lui. C'est comme ça qu'elle a donné amour pour amour, vie pour vie. Sœur Marie de l'Eucharistie, Marie-Thérèse Rivet, disparue, son influence se prolonge. Et qui nous dira jamais en combien d'âmes, en combien d'endroits? Car pendant les 2 ans et demi qu'elle a passé au laboratoire, elle n'a jamais manqué, à chaque électrocardiogramme qu'elle prenait, habituellement 15 par jour, de consacrer au cœur de Jésus chacun de ses malades. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Oui, elle consacrait au cœur de Jésus chacun de ses malades. Écoutez bien ça. Elle avait une façon à elle d'en avertir aimablement son patient. Alors le jeune homme, mettons, plein d'espoir en l'avenir, comme le vieillard aux cheveux blancs, puis la grande dame du pavillon, le royer, bien distingué, comme la plus humble des femmes, hospitalisée à l'Hôtel Dieu. Elle leur disait, « Là, vous êtes pris, vous savez, quand l'examen était terminé. Elle riait.
Elle disait, tandis que j'enregistrais les pulsations de votre cœur, eh bien ce cœur-là, votre cœur, je l'ai consacré tout entier au cœur de Jésus. Et maintenant, c'est lui qui est le maître.
Je ne sais pas trop ce qui peut bien vous arriver, mais ce sera sûrement quelque chose de très beau, puisqu'il est infiniment puissant, le roi du ciel, et qu'il aime d'un amour infini les cœurs qui sont à lui.
Elle n'y allait pas de main morte. Elle avait quelque chose de prophétique, d'audacieux. Mais c'est son sourire radieux qui permettait de dire ça. Et ça disait assez de quel amour elle brûlait elle-même.
Combien d'anciens, d'ailleurs, d'anciens malades ont raconté l'impression profonde que ces paroles avaient produite en eux le jour où ils étaient allés à l'électrocardiogramme. Et qui dira l'emprise que Sœur Marie de l'Eucharistie a exercée sur les gardes malades, celles qui ont bénéficié de ses leçons à l'école et toutes les autres qui l'ont côtoyée dans les offices?
Le meilleur cours, ça on le sait, hein, c'est celui de l'exemple. Le pape Paul VI insistait là-dessus. Les jeunes ont besoin de témoins, d'exemples, encore plus que de paroles. Et elle le savait bien, cette institutrice. Oui, parce qu'elle était aussi en même temps institutrice, en étant hospitalière, parce qu'elle enseignait aux gardes malades. Et si elle préparait de son mieux les répétitions qui faisaient la joie à ses élèves, elle leur enseignait aux gardes malades, surtout par toute sa conduite, que se dévouer, c'est quoi? C'est être prodigue du don de soi. C'est se pencher avec un cœur tendre et compatissant. C'est se dépenser sans compter. C'est donner et se donner. Et qui n'aurait admiré chez la jeune religieuse cet équilibre, un équilibre puissant et calme, était fait de bonté, de prudence et de sagesse. Elle aime l'équipe de ses infirmières, toutes de blanc vêtues. Elle veut pour elle un idéal qui garde leur cœur pur et fort. Et elle s'emploie discrètement à faire grandir le Christ dans leurs âmes, tout en s'efforçant de leur inculquer une haute idée de la profession et de les rendre aussi habiles dans leur carrière que conscientes de leur énorme responsabilité. Son tact, sa politesse, sa discipline, son activité, sa vigilance, son esprit d'observation et sa compétence professionnelle ont fait de Sœur Marie de l'Eucharistie une hospitalière parfaite. On peut dire d'elle, comme disons de Sainte Bernadette Soubirous, qui était sacristine au couvent de Nevers où son corps est parfaitement conservé dans un tombeau de verre, et dont l'ardente charité allait vers Dieu par le bout de ses doigts, qui ne travaillait que pour son culte. On disait, elle s'agite dans un calme de paradis. Eh bien, c'était comme ça, Sœur Marie de l'Eucharistie, Marie-Thérèse Rivet. Elle s'agite dans un calme de paradis. C'est une expression que j'avais jamais lue et je trouve très belle. Sœur Marie de l'Eucharistie, Marie-Thérèse Rivet, des sœurs hospitalières de Saint-Joseph, eh bien, les jeunes gardes malades, les infirmières qui voient très clair, ont bien vite saisi que les quatre choses qui assurent à cette femme qui leur enseigne, qui assure le plein succès, sont à n'en pas douter ces quatre choses. La prière, il le voyait bien chez Sœur Marie de l'Eucharistie, la prière. Le sacrifice, fait joyeusement, par amour. L'exemple. Puis en dernier lieu, seulement, l'enseignement en parole. Parce qu'au cœur d'une garde malade, c'est surtout le don de soi, qui prime peut-être encore sur une trop grande compétence qui serait sèche. Mais il n'y a pas de doute qu'une garde malade doit être très compétente, surtout aujourd'hui, avec toutes les connaissances médicales énormes qu'elle doit connaître. 9 d'entre elles, d'ailleurs, de ses élèves, au cours des 2 ans et demi que Sœur Marie de l'Eucharistie a passé à l'école, vont entrer au noviciat, et Dieu sait si le recrutement est difficile et rare chez les infirmières à cette époque. Et aujourd'hui, il est à peu près nul, le recrutement chez les infirmières pour qu'elles deviennent hospitalières de Saint-Joseph. J'ai pas l'impression qu'il en rende beaucoup. Sœur Marie de l'Eucharistie était estimée par toutes les gardes. Elle ne l'est pas moins par les médecins. Au lendemain de son décès, dont tout le monde à l'Hôtel Dieu prononce son nom, toujours accompagné de grands éloges. Et 2 mois plus tard, l'un des spécialistes de l'Hôtel Dieu disait à Brûle-Pourpoint, à la supérieure, « Quelle religieuse exemplaire vous possédiez, ma mère, en Sœur Marie de l'Eucharistie, et comme elle nous paraissait heureuse dans sa vocation. » Avez-vous compris ça? Heureuse dans sa vocation. Moi, il me semble que c'est toujours la clé des vocations. Quand on sent le bonheur chez quelqu'un qui a répondu, ça change tout. Jeanne Mans, fondatrice laïque de l'Hôtel Dieu, on peut dire devait se réjouir de voir circuler allègrement au sein de son hôpital, devenu immense, cette femme si bonne. Mais d'autre part, on sait que la confiance de Sœur Marie de l'Eucharistie en la fondatrice du vieil Hôtel Dieu était immense aussi. Et comme elle l'a prié pour sa guérison, mais comme les sœurs ont demandé avec elle le miracle qui aurait avancé la cause de canonisation de Jeanne Mans, la première infirmière laïque de l'Amérique du Nord, et aurait conserver une vie aussi si précieuse, celle de Sœur Marie de l'Eucharistie. Mais telle n'était pas la volonté de Dieu, faut croire. Et alors cette religieuse hospitalière de Saint-Joseph, encore bien jeune, est allée vers l'au-delà, vers ce qu'on appelle la demeure de son éternité, vers le face-à-face avec Dieu. Elle a trouvé celui qu'elle a tant aimé. Elle a lutté, peiné, elle qui s'est donnée jusqu'à l'épuisement de ses forces par amour pour lui. Et combien elle s'est donnée. En quoi elle a lutté. Comment elle a souffert. Voilà ce qui importe de préciser si l'on veut pénétrer et comprendre la pure doctrine thérésienne de Thérèse de l'Enfant Jésus que cette jeune sœur avait transposée en sa propre vie ici en plein cœur de Montréal et dont elle a donné l'intelligence en la vivant, en étant brûlée, si on peut dire, par l'amour. Cette toute jeune sœur a cherché l'amour. Et comme c'était écrit au-dessus de sa porte, de cellule, toujours plus, toujours mieux. Et elle est maintenant dans ce face-à-face éternel. Elle communie désormais à l'amour miséricordieux. Dans ce qu'on appelle chez les mystiques le baiser du Seigneur. Or, elle a vécu tout ça, je vous le répète, à Montréal, avenue des Pins, près de l'avenue du Parc, à l'Hôtel Dieu, concrètement ici, dans ce siècle-ci. Oui, Marie-Thérèse Rivet. Donc, je vous le rappelle, qui portait le nom de Marie de l'Eucharistie. Il y a là, d'ailleurs, à l'hôpital des Sœurs, à l'Hôtel Dieu de Montréal, un beau musée des hospitalières. Hein. C'est dans l'avenue des Pins. C'est à visiter. Quand est-ce que ça a été fondé, ça, l'Hôtel Dieu? Vous savez, c'est en 1545 que Jeanne Mans reçoit une lettre de sa bienfaitrice inconnue, Madame de Bullion, qui lui envoie une somme de 20 000 livres de rente qui assurait la fondation de l'œuvre. Elle envoie en plus 2 000 livres en argent, des meubles et le mobilier de 3 chapelles. Et quand la décision de Madame de Bullion parvient à Montréal, on décide de s'y conformer au plus tôt. Et puis, c'est Jeanne Mans. C'est l'œuvre de Jeanne Mans et les travaux vont bon train. Et puis le 8 octobre de cette année-là, 1645, 3 ans après la fondation de Montréal, cette laïque Jeanne Mans, dans son nouveau logis, écrivait à sa bienfaitrice Madame de Bullion en datant sa lettre de l'hôpital de Montréal, qui est l'Hôtel Dieu. C'était un bâtiment de bois mesurant 60 pieds de long. Et 84 de large. Il comprenait une cuisine et 2 chambres pour Jeanne et ses servantes. avec deux grandes pièces pour les malades. Maintenant, cet édifice, le petit oratoire, avait une dizaine de pieds carrés seulement. Madame de Bullion avait envoyé un calice, un ostensoir, des chandeliers, une lampe et trois ornements sacerdotaux pour orner la petite chapelle, et à part l'hôpital, on avait bâti aussi une longue étable de 30 pieds pour y loger les 2 bœufs, les 3 vaches et les 20 brebis reçus de la Société de Montréal. Et pour assurer la sécurité de ces bâtiments, on l'entoura de 4 arpents de territoire d'une forte clôture de pieux, car il fallait se défendre contre les Amérindiens. Voilà l'histoire de cette femme merveilleuse, Marie-Thérèse Rivet, sœur Marie de l'Eucharistie.